Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, cette semaine, il y a eu une déclaration de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ça m'a donné le goût de faire Paul Saint-Pierre, voyons donc, parce que là, c'était un petit peu osé comme affirmation, celle du plafond du prix de l'essence que lui pensait pouvoir
imposer,
exactement. Et ensuite, il y a Mario Dumont qui a fait un commentaire assez direct, je pense, à ce propos-là. Alors, il est avec nous présentement. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Salut.
Bon, écoute, j'aimerais ça que tu reviennes sur ton commentaire de ce lundi parce que, évidemment, c'est une affirmation qui laisse pas indifférent et comme ça concerne à peu près tout le monde en ce moment, ben on se demande si c'est quelque chose qui est véritablement possible de faire un plafond là quand on est au Parti québécois là comme ça.
Ben d'abord mettre un plafond, c'est déjà un gouvernement qui se met à fixer les prix. On s'entend qu'on embarque dans quelque chose d'un peu bizarre, mais mettons qu'on disait on accepte de le faire, est-ce que c'est faisable? Parce que le prix à la pompe, là, dans les fêtes, là, je veux dire, c'est pas là qu'il se fixe le prix. Là. Le prix il se fixe mondialement, il se fixe un prix du baril.
Ouais.
Nous, au Québec, on a trois raffineries. Par exemple, les gens qui voyagent dans le coin de Lévis, il y en a une qu'on voit bien. Le Valero est là sur le bord de la Vin à Lévis. Si Valero dit au Québec, là, j'ai pas le droit de vendre plus que tel prix. Là. Fait que le baril, moi, faudrait pas que je le paye 109 piastres US là, comme il se vend. moi, je peux juste te donner 80.
Ouais.
Et là, ils vont dire à 80, on n'en vend pas. Là. Pareil comme si tu vas à l'épicerie et tu dis moi la boîte de céréales, je ne vais pas payer 5 piastres, je vais payer 1 piastre.
Ouais.
L'épicier va dire ben, on ne chicanera pas, mais à ce prix-là, je t'en vends pas. Laisse-le sur la tablette. Fait que c'est difficile d'imaginer comment le Québec pourrait s'approvisionner. Là, si tu... à moins que quelqu'un accepte de prendre la perte, d'acheter des barils plus chers et de les vendre à perte, mais qui va faire ça? Donc c'est difficile de se l'imaginer. Le seul scénario où ça pourrait être imaginable, c'est si le Québec est un producteur. Et là, le gouvernement pourrait faire un peu un coup de jarnac comme avait fait Pierre-Éliott Trudeau père, là, t'sais, avec la loi de l'énergie dans les années 70, où il avait dit ben nous, le Canada, on est un producteur de pétrole, puis pour que les consommateurs au Canada souffrent moins, ben on va quasiment nationaliser, ou en tout cas, on va prendre par une loi, on va forcer nos pétrolières à nous vendre à nous moins cher. Si le Québec produisait assez de pétrole qu'on se le vend à nous-mêmes, on dit, regarde, nous, on le vend pas, on vend plus nos barils au prix mondial, on perd de l'argent, mais on s'assure d'avoir un approvisionnement local à moindre coût. Mais dans la mesure où au Québec, on n'en produit pas, comment on peut s'en procurer sans payer ce que ça coûte mondialement? D'ailleurs, je conclure ma réponse avec ça, si ça se faisait, là, entre vous et moi, là, il y a plein de pays qui l'auraient fait, il y a plein de pays, de provinces, il y a d'autres endroits qui l'auraient fait. Partout sur Terre, présentement, les consommateurs sont fâchés du prix de l'essence.
Alors, sur quoi il peut s'être basé, lui, pour sortir une affirmation comme ça?
C'est complètement farfelu, okay. Là.
Ben, regarde, il s'est basé sur le fait que dans certains pays, il a pris, pour exemple, la France, il existe dans une loi, là, quasiment une loi sur les mesures de guerre ou une loi sur les mesures d'urgence, des dispositions disant que un gouvernement pourrait avoir le pouvoir à des périodes temporaires de forcer les entreprises, comme les pétrolières, à vendre à un moindre prix. Mais, tu sais, je comprends, là, une loi sur les mesures de guerre, les mesures d'urgence extrêmes. Mais c'est en France, là, ils ont ça dans leur loi. Mais ils l'utilisent pas, là. C'est présentement en France, le prix de l'essence a augmenté comme ailleurs parce que pour les mêmes raisons que je viens toutes de vous expliquer,
ben oui.
Là. Présentement en France, s'ils payent pas le prix du baril de pétrole, ils en produisent pas, ben, ils en auront pas, là. C'est assez simple. Quand tu payes pas le prix d'une chose, le prix que ça se vend, comme disait ma mère, on chicanera pas, mais je t'en vends pas, tu sais.
Tu as suivi le dossier depuis le début de la semaine, même si ça peut faire plaisir à certains consommateurs, est-ce que tu as observé une certaine lucidité de la part des gens qui ne croient pas aux licornes roses enchantées, là?
Ouais, quand même. Je pense que les gens, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, sincèrement, qui ont cru à ça. Ceci dit, moi, je dis, si on veut, ben là, je suis à contre-courant. La mode présentement, les partis politiques, la plupart, part, incluant le Parti québécois, là, ils ont dit, ben là, il faut plus que la caisse de dépôt. Nous autres, le pétrole, c'est sale. Le pétrole, c'est les changements climatiques.
Ouais, ouais.
Donc, il faut plus qu'on soit actionnaire des compagnies de pétrole. Il faut que la caisse de dépôt, par exemple, la caisse de dépôt a des centaines de milliards de notre argent, nos fonds de la Régie des rentes du Québec à investir. Il faut qu'ils placent ça. Et, ben moi, je dis, si on veut profiter, si vraiment on est choqué, là, de l'ampleur du profit des pétrolières, mais la seule solution, c'est d'être actionnaire. Achète-en des actions, puis paye un dividende. Il paye des 4-5% par année de dividende, plus la croissance des actions. Et
mais c'est salissant, ça, pour les mains et les...
Mais là, c'est ça. Mais là, moi, ce qui me concerne, le pétrole, là, moi, je reconnais là, qu'il faut en sortir. Je reconnais les changements climatiques. Mais c'est quand même pas... c'est pas un produit... c'est un produit qu'on vend à tous les coins de rue, là.
Non, c'est ça. C'est pas comme un club vidéo, là. C'est pas dépassé, là.
Non. C'est encore là. C'est légal. Il y a des stations-service à tous les coins de rue. Des Québécois honnêtes avec de l'argent correctement gagné mettent de l'essence dans leur véhicule pour aller conduire les enfants au soccer. Et c'est pas un scandale. Donc, si les pétrolières, quand le pétrole se vendait au cœur de la pandémie, je pense que le baril avait descendu à 30$, mais les pétrolières, ils mangeaient leur bas puis ont perdu des milliards.
Ouais.
Mais on se comprend, là. Avec le pétrole à 110$ le baril, 112, je pense, un matin, on se comprend que les pétrolières font beaucoup d'argent, vont faire des profits énormes cette année. Puis si, à place de chialer, si vraiment on veut être sérieux, puis on dit nous autres, là, c'est ces profits-là, on les trouve gros, ben là, assurons-nous d'en être actionnaires. Demandons à notre caisse de dépôt d'acheter au maximum des actions des pétrolières pour en profiter. Puis si on dit, mais pour des raisons d'éthique, de politique, de morale, on veut pas toucher au profit des pétrolières, ben c'est notre choix, mais là, chialons pas contre notre propre choix, là, contre notre propre décision qu'on a pris pour des raisons autres qu'économiques ou des raisons dites morales, là.
Paradoxalement, évidemment, il y a énormément de taxes sur l'essence ici au Québec. Comment c'est calculé, ça? Puis dans quelle mesure ces taxes-là impactent le prix du carburant? Parce que c'est un pourcentage, évidemment, c'est pas un montant fixe.
Non, c'est un montant fixe. En fait, attention, soyons précis. C'est principalement des montants fixes, donc ils n'augmentent pas avec l'augmentation. C'est que l'essence soit à 1$ ou à 2$ là, à la pompe, ça n'augmente pas, sauf la taxe de vente, évidemment, la TVQ, la TVQ, ça c'est un pourcentage, on se comprend, mais la plus grande partie des taxes sur l'essence sont fixes, donc il n'y a pas vraiment... Pour ça, quand les gens disent de détaxer l'essence, on pourrait, là, temporairement, en disant là le coût est tellement élevé qu'on pourrait donner un break aux gens temporairement en enlevant une taxe sur l'essence. Mais c'est pire. La partie qui est proportionnelle, donc la partie TPS-TVQ, qui, elle, augmente avec le prix, là, c'est ça, c'est un pourcentage. Ben là, Bernard Landry, là, Monsieur Landry, qui est décédé aujourd'hui, nous expliquerait, vous expliquerait en nombre, parce qu'il nous l'avait expliqué plusieurs fois à l'Assemblée nationale, que oui, le gouvernement, quand le pétrole monte, ramasse un peu plus d'argent sur ses taxes de vente.
Ouais.
Mais le gouvernement, c'est aussi la Sûreté du Québec qui met de l'essence dans ses véhicules. Le gouvernement, c'est aussi le ministère des Transports qui a un paquet de camions sur la route. Le gouvernement, c'est aussi la faune, les agents de la faune qui ont des pick-up dans les bois pour surveiller la chasse et la pêche. Là, je pourrais continuer comme ça. Donc, le gouvernement a des revenus supplémentaires, mais aussi des dépenses supplémentaires parce qu'il a une gigantesque flotte de véhicules où, à chaque jour, des fonctionnaires, des employés de l'État qui ont une carte du gouvernement, une carte de crédit du gouvernement, vont faire le plein au nouveau prix, là, tu sais.
Oui. Bon, OK. Mais je veux dire, je pense pas que l'utilisation des véhicules du gouvernement soit proportionnelle avec...
C'est un petit pourcentage, là, j'imagine.
Quand même. Je veux dire, ça doit effacer, je dis pas totalement, mais ça doit effacer une grosse partie des gains supplémentaires de TVQ, là, sur le nombre de véhicules, le nombre de kilomètres des véhicules qui sont tout le temps sur la route. Oui, quand même. Donc le gouvernement fait, oui, un peu plus d'argent là-dessus, mais bon, est-ce qu'il pourrait, tu sais, parce que c'est la est-ce que tu pourrais détaxer le Parti conservateur, par exemple, d'Éric Duhem, demande d'enlever l'application de la TVQ. Mais tu sais, c'est plus facile dans l'opposition. Si tu faisais ça demain matin, t'as deux problèmes. Un, faut que tout que tu reprogrammes les caisses, les stations-service. Puis là, si le prix rebaisse, mettons qu'au mois d'août, au mois de septembre, le prix rebaisse, le prix mondial se calme. C'est quoi, là, tu vas aller les reprogrammer. Là, le monde va être en maudit parce qu'ils vont dire que là, tu remets une taxe
ouais,
de plus sur
le
temps.
C'est dur de revenir en arrière.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le gouvernement se dit, ben, regarde, on serre les dents. Et là, il n'y a pas, ça peut pas être plate, il n'y a pas de gros signaux que ça va rebaisser. Ça a l'air qu'on n'a même pas encore vu le pire là, de la crise de cette année.
Moi, j'ai le feeling que les vacances de la construction, ça va être pas mal.
Se passer sur, ouais. Ça va être les vacances du balcon, là, j'ai l'impression. Mais
ouais, c'est sûr qu'on a. Moi, je pense à des connaissances là qui me racontaient avec fierté l'année passée, l'année d'avant. Ah, avec la pandémie, on peut pas voyager à l'étranger. L'argent des billets d'avion, puis ça, on a mis ça sur un VR. Puis qui avaient adoré ça, leur VR. Puis l'essence était descendue à 1$ le litre pendant la pandémie.
Mais un VR à 30 ou 35 litres au 100, cet été, on va trouver que ça fait un peu plus mal, là.
Ben, c'est ça, là. Tu vas faire le plein de ton VR, puis ça coûte, la facture est d'un 4 chiffres. Le cadran sur la pompe est d'un 4 chiffres, est d'un 1000 piastres. Faire le tour de la Gaspésie, ça va être moins rigolo, je pense, là.
Le fait de détaxer, justement, le litre d'essence, est-ce que ça n'aurait pas comme effet d'ouvrir, finalement, la porte aux pétrolières pour qu'elles augmentent leur part de profit? Parce qu'on l'humain est quand même une bête d'habitude, là. On parle du prix du litre d'essence, mais ça va devenir une nouvelle habitude. La preuve, ça baisse de 2 sous, mais on est quand même bien en haut du 2$, puis on est tout heureux, là.
C'est une bonne observation. Oui, c'est une chose que les gouvernements craignent, de dire, moi, je baisse, mettons, une des taxes, là, mettons, je baisse de 10 cents le prix d'une taxe, puis finalement, les pétrolières, même s'ils prennent pas le 10 cents au complet, mais s'ils augmentent le prix de 3-4 cents en disant, ben regarde, le gouvernement nous donne un petit peu d'espace, on va aller chercher ça en profit, et là, le gouvernement a comme l'impression quasiment de se faire voler, là, d'avoir donné aux pétrolières un peu d'espace pour aller augmenter leur prix. C'est une crainte des gouvernements. Je sais pas si c'est une crainte complètement justifiée, mais je peux vous confirmer que c'est une crainte que j'ai souvent entendue des ministres des Finances évoquer pour refuser de baisser les taxes sur l'essence. Mais tu sais, c'est présentement là, l'essence, c'est un ingrédient d'un problème plus large d'inflation. On est dans une période. Puis bon, c'est sûr que ça y contribue. Le pétrole contribue au transport qui fait augmenter le prix des fruits et des légumes. Mais on est dans une période où le gouvernement vit avec un problème d'inflation qui est pas juste sur l'essence, là, qui est sur un grand nombre de biens essentiels. Puis ben là, c'est ça, c'est les hausses des taux d'intérêt, c'est tout le resserrement qu'on doit faire du crédit pour essayer de calmer l'inflation d'ici la fin de l'année ou quelque part en 2023. Donc le pétrole est un facteur là-dedans.
Malheureusement, on est un peu trop loin de l'Alberta pour pouvoir aller faire le plein là-bas et revenir chez nous et penser avoir économisé. Ça, c'est dommage. Mais l'Alberta, évidemment, ont un gel des taxes là-bas sur l'essence, produisent de l'essence. Quelle est la réalité là-bas et comment on gère ça par rapport à chez nous?
Ben là, l'Alberta, on se comprend que là, eux, ils en profitent en double, parce que oui, les consommateurs payent moins cher. Il n'y a pas de taxe de vente. Ils n'ont même pas de taxe de vente là-bas. Donc, déjà, sur le prix de l'essence, ça a un impact. Ils ont un prix d'essence moins élevé. Ils ont un peu moins de taxes aussi autres que les taxes de vente. Donc, ils payent vraiment, je sais pas, il est à combien, mais il doit avoir un écart de quelques dizaines de sous. Quoi qui a augmenté là-bas aussi. Le prix du prix mondial a augmenté. Sauf que dans le cas de l'Alberta, leur gouvernement va avoir de la marge de manœuvre. C'est que si les compagnies pétrolières roulent à fond de train, payent des redevances à la province, etc. T'sais, si l'Alberta n'a pas de taxe de vente, trompez-vous pas, c'est parce qu'ils ont le pétrole. C'est le pétrole qui a permis à cette province-là d'être riche. C'est la province qui a les plus hauts niveaux de revenus. Les revenus privés, les revenus moyens des ménages, c'est là qui est le plus élevé au Canada. Ils ont vécu des mauvaises années. Là. Le budget de l'Alberta est tombé dans le rouge avec la pandémie, avec la baisse du prix du baril. Mais là, ils une chose, leur compagnie pétrolière qui ont leur siège social à Calgary, d'après moi, ils vont avoir 2022, ils vont avoir une bonne année, là.
Ouais. Ça c'est évident.
C'est payant pour les compagnies, mais c'est payant, ils payent des redevances, c'est payant pour le gouvernement aussi.
Évidemment, ici, on se retrouve dans un contexte où c'est pas nécessairement le pétrole qu'on veut pousser, c'est la voiture électrique. Et là, ben, on multiplie les ventes de véhicules électriques. On parlait de 13-14% de ventes de véhicules électrifiés vendus dans les derniers mois ici au Québec. Est-ce que ça veut dire que le jour où on aura, je dis pas une majorité, mais une quantité considérable de véhicules électriques sur nos routes, on peut s'attendre à ce que les taxes appliquées sur l'essence soient transférées sur l'électricité et qu'on voit notre facture d'électricité exploser?
Non. Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas.
Parce qu'il y aura un manque à gagner.
Ben, je pense qu'au niveau du gouvernement, on se prépare à ça. Là. C'est une transition qui se fait lentement, année après année, qui, à mon avis, présentement, qui se fait encore plus vite. Si t'avais, à l'heure actuelle, si t'avais dans les cours, là, ben, vous autres, ouais. s'il y a des gens qui suivent les cours des concessionnaires, c'est bien vous autres au guide de tour, là, mais
ouais. Ça sonne écho. Ça sonne écho de ce temps-là, ouais.
Ouais, là, ils se vendraient, là. Ça serait fou, là. Je veux dire, ça sortirait. Là, c'est qu'il n'y en a pas. Je veux dire, les gens vont visiter des concessionnaires, parlent de véhicules électriques. On leur raconte des délais d'attente de un an et demi. Fait que c'est certain que ça refroidit un peu. Les gens se disent, bon, est-ce que... C'est ceux qui sont convaincus d'un véhicule électrique qui s'en vend beaucoup, mais ceux qui sont moins certains, qui auraient peut-être été affectés par le prix de l'essence, ils se disent, ouais, là, dans un an, le prix de l'essence, il y a le temps de fluctuer de baisser quatre fois puis de remonter trois fois. Là.
Ouais.
Peut-être qu'on va attendre pour voir. Mais si tu avais de la disponibilité vraiment de véhicules électriques à ce moment-ci, là, disponible, c'est comme on dit, une belle rangée d'un cours comme on avait autrefois avec des types, ouais, sortes de véhicules, moi, je pense que ça sortirait comme des petits pains chauds.
C'est ça, ah, ça, c'est sûr. Mais à ce moment-là, c'est un peu, on revient à ce qu'on disait, il y aurait un manque à gagner de la part d'Hydro-Québec qui ne collecterait plus les taxes qu'on collecte sur l'essence lorsque les gens se rechargent même à la maison.
En plus du fait que ces véhicules-là sont subventionnés par le gouvernement.
Ouais. Mais tu sais, je pense que dans l'ensemble des finances du gouvernement, dans l'ensemble des milliards qu'ils vont dépenser sur le dossier des changements climatiques, même s'il y a un manque à gagner temporaire dans l'année en cours, je pense que le gouvernement verrait ça quand même comme un beau problème. Là. Il verrait ça comme quelque chose de plus compliqué. C'est plus compliqué de régler les changements climatiques que de régler un trou dans le budget, mettons, d'une couple de 100 millions. Là, donc, je pense pas que ça serait perçu comme un problème majeur ou une mauvaise nouvelle. Bon, il y a cette semaine, là, d'ailleurs, on parlait du Parti québécois, mais le Parti québécois, dans son plan, il y avait aussi ça, là, d'accélérer. Puis là-dessus, je serais curieux de vous entendre dire qu'il faudrait qu'on mette des pourcentages obligatoires, qu'on force les constructeurs à nous fournir plus de véhicules électriques, à en rendre disponibles dans les concessionnaires du Québec. Croyez-vous à ça? Est-ce que les concessionnaires se traînent les pieds, produisent pas assez de véhicules électriques,
produisent
pas assez au Québec?
La vérité, c'est que on est un trop petit marché dans un marché nord-américain pour penser pouvoir s'imposer face à un constructeur automobile mondial. Le Québec, c'est bien beau, mais dans un marché nord-américain, on représente 2,5% du marché total. Tu peux pas arriver avec tes gros sabots puis dire...
Quand un politicien prend la parole puis dit qu'il va dire quoi faire aux constructeurs automobiles, vous autres, au guide de l'auto, vous riez un peu.
Je ris énormément et je trouve qu'on travaille de toute façon de la mauvaise façon, parce que plutôt que de donner des crédits sur un véhicule électrique, taxer le véhicule à essence. Là, il n'y a pas de contraintes pour vendre des véhicules à essence ici. Alors, on peut en amener autant qu'on veut. Il n'y en a pas de problème, on va les vendre. Alors que si tu vas du côté de l'Europe, c'est le contraire. Le véhicule électrique n'est pas subventionné, mais si tu achètes un véhicule à essence, tu vas le payer peut-être une fois et demie, deux fois en taxes.
Ici, on n'a que la carotte, pas le bâton.
C'est ça. Fait que faut travailler. Ouais.
Mettre le bâton sur les véhicules à essence. Tu sais, mettons, quelqu'un qui son véhicule brise sérieusement, il faut qu'il en achète un nouveau. Si tu le punis, s'il achète un véhicule à essence, mais que des véhicules électriques, il n'a pas disponible, le citoyen se retrouverait crucifié, coincé devant une impossibilité. Là.
Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, tu verrais l'industrie automobile s'ajuster et rapidement. On a déjà des problèmes actuellement uniquement avec des gens qui ont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui ont un accident ou qui se le font voler carrément et on n'est même pas capable de remplacer ces véhicules-là. Je parlais à des gens chez Toyota cette semaine. On a quelques cas de gens qui se sont fait voler leur RAV4 Prime, des véhicules qui ont sans doute été exportés. On n'est pas capable de les remplacer. Alors, tu fais quoi?
Donc, l'assurance est prête à payer, mais il n'y a pas de véhicule.
Il n'y a pas de véhicule.
On est coincé, là.
On est à ce point-là. Là. Là, on parle de deux ans et demi, trois ans pour certains modèles. C'est carrément... C'est indécent comme délai. Je dis souvent la même chose, mais il y a une dame un jour qui m'avait dit... Vous êtes en train de m'expliquer que ma fille a le temps de finir son secondaire, de faire son cégep au complet avant que je me fasse livrer la voiture que j'ai commandée cette semaine. Ça n'a aucun bon sens.
Si on n'y est pas trop à cafétéria, c'est ça qui va arriver quand même.
C'est ça, exactement.
Bon, on sait, Mario, que t'es pas un magicien, mais si tu avais un petit mot pour le consommateur moyen qui en arrache un peu en ce moment avec le prix du litre d'essence et qui voit justement l'été être... pas une catastrophe, mais pas loin, là.
Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il faut regarder, il faut regarder toutes les options là, pour faire des kilomètres inutiles, voir comment on peut s'arranger avec d'autres. Les solutions comme le covoiturage, ça n'a jamais eu autant de sens. Moi, ce que je dis aux gens, tu sais, puis là, ben, je veux pas, la vie de chacun, il y a des gens qui ont une santé fragile, il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants. Mais tu sais, les gens qui ont de la disponibilité, l'inflation est là, puis l'inflation est là pour un an et demi. Là. À mon avis, ça t'en sort pas. Ouais. Fait que les deuxièmes jobs, là, c'est vraiment pas quelque chose à cracher dessus. Là. T'sais, les revenus d'appoint, la demi-journée, une soirée de plus, t'sais, c'est peut-être la façon de gérer l'inflation est 7-8%, mais tu vois, d'aller chercher un 7-8% de revenus de plus sans mettre tous tes loisirs en danger, mais je sais qu'il y en a qui... Parce que l'avantage que tu as présentement, c'est que tu vas trouver, là. Tu veux travailler une soirée, ouais. Tu veux travailler quelques heures, il y a plein de possibilités. On disait autrefois, il y a quelques années, là, les taxis puis les Uber, ça se bat pour les clients. Présentement, il y en manque partout. Il y a plein de villes qui sont plus desservies. C'est quelqu'un qui veut faire quelques heures de plus, il y a toute une série d'options. Puis ce revenu d'appoint-là, ben c'est peut-être ce qui va te permettre de préserver tes loisirs, c'est peut-être ce qui va te permettre de rencontrer, là, de dire, ben moi, là, je veux garder mon auto, je veux continuer à le rouler, etc., ben voici comment je vais compenser pour le prix de l'essence. Ça, c'est quand même quelque chose, parce que, bon, à l'époque où le chômage était, quand j'étais jeune, le chômage était à 13%. T'sais, tu disais, trouver, tu avais déjà un job, tu étais chanceux, trouver un petit sideline, c'était pas évident. Mais là, tout le monde, si t'es débrouillard un peu, t'es capable de donner une petite prestation de travail, tout le monde cherche des gens, tout le monde cherche de la main-d'œuvre.
Puis c'est le
contexte qu'il faut mettre dans le décor.
Puis c'est la longue fin de semaine, fait que c'est le temps de faire des ventes de garage puis de vider à la maison des cochonneries aussi. Tu sais, on peut faire ça.
Moi, je vais aller flipper des boulettes pour remplir le réservoir de mon grand marquis.
C'est ça. En terminant, disons que tu es au pouvoir demain matin. As-tu une idée pour le prix de l'essence? As-tu un flash qui te vient?
Ah, moi, non. Non, moi, sincèrement, je vais être plate là-dessus. Moi, je suis au pouvoir demain, je m'occupe de plein d'autres affaires. J'essaie de... à la limite, je vais baisser les impôts, améliorer le sort des familles en général.
Mais t'accumules davantage de pétropoints.
Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, le prix de l'essence, là, moi, je... Quand tu es au gouvernement, là, t'acceptes que c'est un marché mondial. Ben peut-être que moi, par contre, je serais pas mal plus enclin à ce qu'on en produise un peu au Québec, là, qu'on profite, qu'on profite de la manne. Mais sinon, d'essayer de commencer à jouer, à zigonner sur le prix de l'essence, c'est une affaire de rien. Là, c'est d'affaires comme on est, faut que tu acceptes au gouvernement. Fais bien ce que tu contrôles, puis fais pas semblant de faire des petits maigrés sur ce que tu contrôles pas. Là.
Donc, l'affirmation de Paul Saint-Pierre Plamondon...
C'est un peu farfelu.
Je vous dis comme je le pense. Je pense que Paul Saint-Pierre, on a 5 partis politiques maintenant au Québec.
Ouais.
Les élections sont cet automne. Les sondages sont pas faciles. Bon, c'est sûr qu'à 5, ils se divisent le vote. La CAQ est forte. Puis je pense qu'à un moment donné, tu te fais une réunion, tu te grattes la tête, puis tu te demandes comment on fait pour faire les nouvelles. Comment on essaye de percer l'actualité? Qu'est-ce qu'on trouve pour faire les nouvelles? Puis qu'il y a certaines idées qui normalement auraient été filtrées pour dire, voyons, on peut pas proposer ça, on fait rire de nous autres. Mais que là, si je vous le dis, vous me posez la question, je vous réponds crûment. Là. Je pense que maintenant, on arrive à se dire, ben là, tabarouette, ça tient à moitié de bout, là, mais on va faire les nouvelles avec ça.
Celle-là est passée à travers le tamis, là.
Ben, c'est-à-dire que ça a marché, là. Regarde, prenez sur mon critère de faire les nouvelles. Ça a marché.
Ouais.
Ils ont parlé d'un sujet dont tout le monde parle, puis ils ont fait les nouvelles.
Oui, bon, effectivement. Puis on en parle encore aujourd'hui.
Ben c'est ça. Est-ce que c'est une solution logique? C'est une autre affaire.
Merci beaucoup, Mario, de ton temps. Bien apprécié. Et puis, on verra comment ça va se promener. T'as-tu peut-être des prédictions pour le prix record à la dernière de juillet?
Faire des prédictions sur le prix de l'essence. Mais moi, mon feeling, c'est qu'on s'en va vers... Je pense pas que ça va dépasser 2,25-30.
Non?
Je pense que ça va aller virer dans ce coin-là. Je pense pas que ça va dépasser ça, non.
OK.
On croise les doigts.
C'est ça, exactement.
On croise les doigts.
Merci beaucoup, Mario.
Merci.
Salut.
Salut.